Bon, merci, monsieur. D'abord, j'ai entendu votre préambule et j'ai compris qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui auraient pu parler de l'avenir de la médecine. Et au fond, quand vous me l'avez proposé, j'ai accepté, j'étais content, mais je dois dire que mon exercice est plutôt en général de faire de la pédagogie et pas dans le monde domaine qui est celui de l'imagerie médicale, et pas forcément de me transformer en prophète de la médecine de demain. Donc je ne cache pas que j'ai eu quand même quelques difficultés pour mettre au point cette conférence. Mais ce que je voudrais dire quand même d'emblée, c'est que contrairement à ce qu'on dit parfois que lorsqu'on déguste un foie gras, on n'a pas besoin de savoir quel est le canard qu'il a porté, je pense qu'il est important que je me présente à vous. Et je ne vais pas me présenter avec des titres et des choses comme ça, parce que je pense que ça n'a pas tellement de sens, mais je vais essayer de brosser en introduction un petit tableau de moi-même pour que vous compreniez aussi comment je vois la médecine de demain. Sinon, je pense que ça serait impossible. Alors, tout d'abord, pour vous répondre, je dois dire que je serais bien intervenu. Alors, je vais lire. Je vous ai dit, je ne sais pas faire de la pédagogie sur ce sujet, enfin, dans ce domaine. Je sais le faire dans d'autres. Là, je suis obligé de lire. Excusez-moi. Je serais bien intervenu il y a quelques années, monsieur, dans la série énième de l'invité du mercredi, mais vous ne me l'avez pas proposé, qui était l'autre. Je trouvais que c'était un très beau titre, l'autre, et je vais vous expliquer pourquoi j'aurais bien aimé. Parce que, d'abord, j'ai des difficultés avec l'altérité. Alors, vous allez me dire, oula, c'est un individualiste forcené, il ne reconnaît pas les autres. Non, je reconnais les autres très facilement et j'ai la fâcheuse tendance de m'y confondre. Et donc, je fais ce que Marguerite Yourcenar a écrit magnifiquement. Parfois, j'ai tendance à passer du nageur dans la vague et je pense que j'aurais pu m'entretenir de ça. Mais celui qui décide est un dieu et me voilà donc invité... Ah oui, Dieu décide, à parler de médecine, un sujet qui m'est beaucoup moins simple, voilà, parce que sur l'autre, j'aurais pu dégoiser sans vraiment des conséquences. Par contre, la médecine, c'est trop sérieux et ma position, Monsieur Caillé l'a rappelé, en plus, maintenant j'ai le grand plaisir de travailler auprès du président de l'université, donc ma position m'empêche certains écarts de langage, même si j'ai parfois des écarts dans la pensée. Donc mon propos... ce soir ne sera pas savant, ne cherche nullement à faire un exercice intellectuel dont je suis incapable d'ailleurs, et pour lequel exercice intellectuel, mis à part ceux de mon maître bien sûr, je ne goûte pas trop que rarement, car je n'aime pas l'artifice, il aura compris. Je serai donc spontané, voire intuitif, et plutôt qu'un discours prophétique, bien que le titre « Demain » pose un éminent problème, je voudrais vous faire partager quelques pensées, quelques propositions, pour construire une médecine de demain avec peut-être un peu moins de pessimisme que Monsieur Caillé a bien voulu nous laisser entendre dans son introduction. Alors, commençons par le commencement. Et pourquoi parler de demain? Alors, je dois dire que parler de demain, c'est un vrai challenge, mais je préfère parler de demain que parler du passé. Alors, pourquoi pas du passé? Parce que je pense que l'avenir est moins dangereux qu'un le passé, car il n'est pas encore entaché de mémoire, et surtout l'illusion de vérité, et vous apprendrez de moi que je pense qu'il n'y a pas plus faux que la vérité, et qu'il faut surtout s'éloigner des détenteurs de vérité. J'aime donc, et j'en fais ma philosophie, l'incertitude, n'adhérer à rien de façon définitive ou irréversible, se laisser flotter, ne pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Cela ne veut pas dire ne pas s'engager, mais cela suppose de laisser la porte ouverte, et notamment à l'autre. Malgré tout, l'exercice de parler et de l'avenir est difficile. Alors, il y a un joli petit texte de Gérard Massé que j'aime vous livrer. Peut-être que M. Caillé s'y reconnaîtra. La vanité de la plupart des jugements, des plans sur la comète et des opinions sur l'avenir, à quoi les Occidentaux sont tellement habitués que leur seconde nature est toujours celle d'un juge ou d'un prophète. Chasser ce naturel... donc ne pas penser forcément à l'avenir, c'est avoir l'esprit libre, vacant, oisif, prêt à donner ses chances à cette vie qui est la seule. Mais évidemment, ce soir, je ne peux pas me soustraire puisque le sujet est ainsi. Alors, je vais quand même remonter un tout petit peu dans le passé pour vous dire des choses qui me sont personnelles. Quand j'étais un petit enfant, et on sait que tout commence mal dans la petite enfance, on me raconta que Walt Disney s'était fait congeler à sa mort, et qu'il attendrait ainsi suffisamment longtemps que les progrès de la médecine lui permettent de revivre, en le réchauffant bien sûr, et en soignant sa maladie. Alors ça, j'étais vraiment un petit enfant dans les 60s. Et puis, des années plus tard, à la toute fin des 70s, je me lançais dans les études de médecine, alors que la plupart de mes camarades surfeurs se lançaient sur les vagues des sportswear, genre Quicksilver et Oxbow, que vous voyez du côté de Sorts, et devenaient en quelques années des fortunés, ce que je ne suis pas, bronzés, vous avez vu que je ne l'étais pas, et musclés, je ne le suis plus. Donc au fond, Walt Disney et moi avons misé sur l'avenir de la médecine, lui pour revivre et moi pour vivre dans un monde altruiste et aussi florissant que les arts de la glisse. Donc je me suis lourdement trompé et je me tromperai probablement ce soir en vous parlant de l'avenir. Je ne sais pas ce que devenu Walt, mais je sais que le monde de la médecine est aujourd'hui en France, comme presque partout ailleurs, dans la tourmente du financement, de l'organisation et de l'éthique. Pouvais-je, par exemple, il y a 30 ans, anticiper la commission Larcher, par exemple? Et pourtant, dans cette période, et là je choquerai peut-être certains, les progrès, alors en ce moment, il vaut mieux dire avancer, j'ai appris ça, que le mot progrès qui n'est plus du tout à la mode. Mes filles, si elles étaient là ce soir, iraient jusqu'à dire que je suis twist again avec mon irrésolution au désespoir ambiant. J'aurais promis de dire le mot twist again, donc voilà. Les progrès de la médecine, pour moi, ont été fantastiques et me procurent des joies immenses. Dans les années 70, Monsieur Caillé, que vous avez sous vos yeux, et j'ai un témoin, c'est Monsieur Guérin, alors ça va être facile de prouver les choses, enfonçait des aiguilles comme des pieux sous l'occiput des patients ou entre les vertèbres pour leur faire des encéphalographies gazeuses ou des ventriculographies en double contraste qui finissaient, lorsque le malade en réchappait, par des jours de céphalées intenses et de vomissements, avec un diagnostic des plus aléatoires, voire parfois folklorique. Mais je ne doute pas qu'il faisait cela avec et par humanisme. 30 ans après, les progrès de la science, de la physique, de l'intelligence humaine, des industries du matériel, de l'organisation de la santé aidant, le patient allongé tranquillement dans l'IRM sans aucune douleur a un diagnostic mille fois plus performant qui permet un traitement mille fois plus adéquat. La médecine grâce à la science n'est-elle pas aussi devenue plus humaine? Évidemment, vous allez me trouver d'un optimisme béant et peut-être stupide dans une France engagée dans le déclinisme, mot emprunté à nos amis anglo-saxons pour nous décrire. Je voudrais vous expliquer pourquoi je suis optimiste. Il ne vous a pas échappé que l'aventure humaine individuelle est vouée au naufrage. Jean Lévy dit ce très beau mot, le tout du monde se déploie sur fond de néant. Et j'ai noté dans l'Iliade cette réflexion d'Apollon, pourquoi se quereller pour de pauvres humains pareils à des feuilles qui tantôt vivent pleins d'éclat en mangeant le fruit de la terre et tantôt se consument et tombent au néant. Je sais trop bien qu'il faudra un jour quitter le radeau, nager seul dans l'immensité. Mais c'est le radeau sur lequel nous sommes aujourd'hui, vous et moi, encore pour quelque temps, qui vaut la peine. Je ne me résoudrai donc pas au pessimisme, je ne sais transmettre qu'un message positif, car seul ce message peut construire un monde différent. Et on m'a souvent répété dans mon entourage médical, on ne construit pas l'avenir en anticipant des catastrophes. D'abord, pour arriver à cet optimisme dans le contexte ambiant, je crois qu'il faut tomber de très bas. J'ai vécu et je vis comme chacun ici des pauvres peines d'hommes. J'ai lu Fernando Pessoa ou Cioran, le précis de décomposition, et je suis mort. Certains livres sur la Shoah ont eu le même effet, si c'est un homme de Primo Levi. Ce n'est pas du désespoir, c'est ouvrir les yeux sur notre triste réalité d'homme, perdu dans l'univers, ignorants et souffrants. Il faut passer par ce prisme, accepter en vivant la condition du non-vivant, accepter la réalité qui est la nôtre, pour sublimer notre existence, une sorte de descente aux enfers obligatoires pour aimer vivre et peut-être aussi aimer mourir. Mais comment ne pas être fasciné par l'histoire collective du vivant, de l'homme et de son évolution? Il faut donc aller jusqu'au bout de ces désillusions pour à nouveau sublimer cette existence. Et Nicolas Bouvier dit « faire l'expérience qu'on n'est rien est une chose nécessaire sur le chemin de la vie ». Se rendre compte du ridicule et de l'absurde de notre situation, de la faillite de tous les systèmes, pensée, culture, théorie, idéologie, religion, de l'absence de tout et même de sens. Quelle tristesse, quelle angoisse, mais quelle aventure, quelle tragédie magnifique. Ce qui soudain en fait l'incroyable génie de cette aventure, c'est que nous pouvons entrevoir cet état. Nous en avons l'intelligence. Il y a donc un hasard qui a concouru à faire qu'une vie pouvait devenir pensée et que cette pensée pouvait tourner son regard sur elle-même. En tournant ce regard sur elle-même, identifiant les souffrances communes, notre intelligence a cette capacité de poser ce que Heinz Wissmann appelle l'hypothèse contrefactuelle. Excusez-moi de ces mots un peu barbares, mais vous allez comprendre ce qu'est une hypothèse contrefactuelle. C'est l'hypothèse que ces souffrances communes peuvent être réparées et que leur destin néfaste peut être corrigé, voire annulé. C'est cela, pour moi, la médecine. C'est une intelligence qui s'oppose aux faits, souvent durs et douloureux, de notre nature profonde. En amont du contrefait qui est la médecine, il y a obligatoirement un fait et son corollaire, la fatalité. Notre société du virtuel, j'en profite pour en parler un tout petit peu, mais j'en reparlerai ensuite, est celle du contrefait avant le fait, le refus de la fatalité, le refus du fait, et immédiatement la recherche de la victime expiatoire. La réflexion du scientifique sera de prendre, au contraire, le fait, de l'analyser, de poser les hypothèses contre lui qui permettront de l'éviter, donc de se situer dans une démarche de changement du futur et de demain. Après cette petite introduction qui, comme je l'ai dit, m'expose beaucoup dans ma façon de penser, je voudrais venir à un deuxième chapitre qui est celui du malade. Alors, pour le malade, je commencerai par vous dire ce mot de Woody Allen que j'aime beaucoup. Si les hommes étaient un peu moins mortels, ils seraient un peu plus décontractés. Et en effet, là résident les bases fondamentales de notre existence et celles des invariants du vivant. La recherche permanente de la survie qui passe par la prolongation de la vie et par la reproduction. Tout le reste est camouflage, déguisements et stratégies. Le mal est là, c'est l'attachement à l'existence. Et pourtant quoi l'existence ? Une construction momentanée de pièces universelles, secouée par les hasards, tourmentée par les nécessités de la survie. Jean-Claude Ameisen dans la sculpture du vivant dit « Le monde chatoyant qui nous entoure est un monde de rescapés. La longue course du vivant à travers le temps a été une traversée sur la mer houleuse de la contingence. » La survie est donc notre modèle. Elle est intrinsèquement liée au vivant. Nous voulons prolonger notre faculté à être présent, ici, à exister, à faire que la pensée perdure, que la connexion, que l'interaction avec les autres continue. Mais ce n'est pas possible. Il y a des milliards d'évidences pour faire du corps le support temporel limité de notre âme. C'est déjà fabuleux, mais pauvre mortel, tu n'aimes pas l'idée que cela s'arrête. Pourtant, ce devrait être le seul guide de ta conduite. Alors, j'aime bien les pharaons d'Égypte et je me dis, quand je vois leur tombeau, je me dis, quelle angoisse de la mort. Et pharaon, quelle leurre bercer ta vie pour faire tant de cas de ta propre mort et de ne pas l'assimiler à la mort simple sans mise en scène de tes contemporains. Il y a une très belle épitaphe qui a été retrouvée sur une tombe grecque qui dit « Esclave sur terre, mais pas moins que Darius dans le mystère ». C'est la position sans condition du médecin face au désir de survie du malade. La vie de l'esclave vaut celle du roi. Pour aller à l'intérieur de l'humain, je voudrais, dans le deuxième petit chapitre concernant le malade, essayer de voir et de mieux comprendre l'intérieur du vivant. Et j'aimerais vous relater ce conte de Chuang Tzu, qui était un philosophe taoïste qui vécut il y a 2500 ans. Alors, c'est un petit conte, vous allez voir, ça m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu il y a quelques années, et j'ai lu dessus des gens qui ont fait beaucoup d'hypothèses, et ce soir je vous livrerai la mienne. Dans la Chine, il y a très longtemps, deux princes, celui du nord et celui du sud, se rencontrent chez le prince du milieu. La réunion se passe fort bien, et les deux invités se réjouissent de l'accueil et de la gentillesse de leur hôte. Ils le trouvent très accueillant, mais informe, et décide donc de lui percer 7 trous pour qu'il puisse, comme eux, voir, respirer, entendre. Au bout de 7 jours, la substance vitale s'étant répandue, celui-ci meurt. Chuang Tzu, en grand philosophe, livre le texte brut et cruel à l'interprétation. Il préférera d'ailleurs lui-même mourir qu'accepter de devenir le conseiller d'un empereur, ce qui en dit long sur sa nature. Cette histoire a généré des dizaines d'interprétations, je vous l'ai dit, et des centaines de controverses, et je vous propose la mienne. Le nord, le sud et le milieu représentent une seule entité. Le prince du milieu est en fait leur monde intérieur, celui de la stabilité, car il est préservé de l'extérieur. Chuang Tzu nous avertit, si vous touchez au monde intérieur en le mettant directement en contact avec le monde extérieur, vous provoquez la mort. L'homme, chaque individualité, celle qui un jour meurt seule, possède ce monde intérieur, cette citadelle cachée qui doit être respectée. Mais où se situe ce monde intérieur de l'être vivant ? Je la situe Ce monde intérieur, porte notre flux vital, notre instinct de survie et de tueur. C'est une pièce noire où l'on projette le film de nos angoisses, trop sombre pour qu'on y comprenne tout. C'est la boîte noire de nos pulsions animales. C'est la grotte protégée que la lumière dégrade. Là s'y mêlent nos désirs et nos refus. Là échouent nos rêves. Les ombres de notre vie s'y retrouvent, nos chagrins intimes aussi. On y accède parfois la nuit entre éveil et sommeil, mais le tout ne nous est pas révélé. Les murs ne se voient pas. Ils battent avec notre pouls cérébral. On perçoit un souffle chaud, lourd. Notre force, au milieu d'un bric-à-brac formé au cours du temps, cueilli par nos sens, comprimé et déformé par notre mémoire. On y voit nos morts. Je m'exprime avec des mots révolus. Je devrais emprunter le langage de la biochimie, ce qui m'amènerait à l'explication de notre survie, de notre attachement à l'existence, au fondement de la vie. Oui, je crois que la source de vie est en nous, profondément enfouie. On n'y descend pas facilement dans ce coin sombre de la cave. Les exercices solitaires y sont propices, certains textes révélateurs aussi, parfois des musiques. Je me demande si le sportif solitaire et endurant n'en cherche pas l'entrée. Quel rapport avec la médecine? Je vais essayer de vous le dire. Dans le contexte d'une médecine moderne, qui s'aventure de plus en plus dans le monde intérieur de l'individu, par des technologies ou par des paroles, et donc y perce des trous, ce conte prend une résonance particulière. Respecter le monde intérieur de chaque individu, de chaque malade, c'est si difficile. Le médecin peut vite se transformer en violeur, en pilleur de tombeaux. Je me suis adressé ici, surtout à nos amis que je vois ici, les étudiants, qui doivent savoir combien le respect du désir de vivre de chaque individu est important. Alors les corollaires de la survie, toujours dans ce chapitre sur le malade, sont le vieillissement et la surpopulation. L'attachement à la vie conduit à la souricière de la longévité. Passage, tous les jours, toutes les heures, insidieusement. C'est ce changement, cette transformation qui retient mon attention de médecin et me fascine. Je voudrais vous livrer ce petit texte d'Anna de Noailles. Vous êtes mort un soir à l'heure où le jour cesse. Elle s'exprime à celui qu'elle aimait et qui est mort. Ce fut soudain. La douce et terrible paresse en vous envahissant nous a vaincus. Rien ne vous a prédit la torpeur et la tombe. Vous eûtes le sommeil. Moi, je peine et je tombe, et la plus morte mort est d'avoir survécu. C'est ce qu'il reste effectivement à celui qui vieillit trop et seul. Si nous continuons sur le progrès de la survie, qui se mesure en espérance de vie, et Dieu sait si cette mesure progresse, de quoi mourra-t-on ? Arrivera le temps où nous n'aimerons plus la vie, où la mort pèsera plus que la vie, où l'inutilité sera trop explicite, où cette biologie altérée de toutes parts confine à l'indécence et n'ose plus se montrer. Demander de mourir. Et on a eu le cas très récent, non pas d'une Française dont je citerai même pas le nom, mais d'un écrivain belge qui s'appelle Hugo Kloss, qui il y a quelques jours a choisi de mourir par euthanasie, alors qu'il n'était qu'au premier stade de la maladie d'Alzheimer. Question du vieillissement, quand a-t-on accompli sa vie? Qui tire la corde du pendu qui réclame la mort? Est-ce un acte médical? Celui qui désire vivre et vieillir, miser sur sa longévité, doit accepter de subir la dégradation du temps. C'est cela, demain. Perdre ses cheveux, voir les rides se déposer sur le visage, les chairs devenir plus fasques, les regards des autres se détourner, les muscles perdre de leur force, les dents tomber, entendre et voir de moins en moins bien, avoir des douleurs des articulations, aux genoux, aux dos, aux épaules, aux doigts, prendre sa mémoire, perdre sa mémoire, ne plus être aussi habile, ne plus sentir très bon, ne plus être cet éros mythique. Devenir inexorablement un plaignant, devenir plus dépendant de l'entourage. Mais ai-je décrit là une maladie? Suis-je chanceux de vivre cela, car mort avant je ne l'aurais pas vécu? Ne dois-je pas aborder cette étape avec fierté, avec panache? Pour l'enseignant, ne faut-il pas apprendre la nature même de cette évolution du temps? Pour le médecin, pour l'étudiant en médecine, ne faut-il pas redéfinir la maladie? Pour l'organisation de la santé, ne faut-il pas reconsidérer le catalogue des maladies et diriger le politique vers les investissements à faire? Et vous l'aurez compris, face à ces questions, mon humanité la plus profonde s'adresse à l'enfance malheureuse et malade, ainsi qu'aux vrais handicapés. Un autre point que je voudrais aborder, qui est aussi pour moi très révélateur du malade, c'est la dépendance. Et je m'égare à dire que c'est révélateur du malade, j'ai tendance à dire que c'est le révélateur de l'homme. C'est un domaine dont je ne suis pas spécialiste. J'ai aperçu un spécialiste de l'addiction dans la salle. Peut-être qu'il me dira que je suis complètement fou. Mais je me pose une question qui peut-être est familière. Notre neurobiologie de l'attachement ne serait-elle pas le reflet d'une disposition particulière à la dépendance? Un penchant, au fond, tout à fait naturel. Si je prends quelques exemples, le tabac, les drogues, l'alcool, le sport, la nourriture, la consommation achetée, le travail, l'idée de Dieu, qui d'entre nous n'est pas touché au moins par l'un de ces éléments qui peut devenir un élément de dépendance? Peut-être passons-nous beaucoup de temps, si ce n'est la majeure partie de notre vie, à essayer de nous en débarrasser, ce qu'on appelle grandir, être mature, se contrôler. Ne serait-ce pas l'indépendance le phénomène anormal? Évidemment, cette pensée m'amuse, mais elle permet de mieux comprendre l'humain et ses travers, peut-être développer une certaine tolérance, et comment ne pas tolérer la nature profonde lorsqu'on est médecin. J'aimerais seulement vous alerter sur une conséquence de la dépendance qui aujourd'hui se manifeste sur des objets de façon plus insidieuse, c'est l'occupation de l'esprit. J'ai l'impression que les objets nomades ont envahi notre vie, j'ai un portable dans la poche, et leurs produits, son, images, jeux, bavardages nous les rendent indispensables. Il faut faire un effort d'analyse, d'intériorité et rentrer en conflit avec soi-même pour s'en débarrasser, les ramener à l'essentiel, rendre notre cerveau disponible pour autre chose. Pour l'effort d'apprendre, par exemple, et pas seulement pour l'effort de ressentir. Ceci pose le problème de la disponibilité d'esprit des étudiants d'aujourd'hui, j'y reviendrai un peu plus loin, et je leur dis souvent que les distractions sont trop nombreuses. Vivre de ses sens et de sa mémoire, c'est bien, mais surtout ne pas en devenir esclave. Un autre point qui marque aussi notre vie d'aujourd'hui et que j'inclus à l'intérieur de cette description de l'homme, c'est l'introduction du monde virtuel. Alors on passe de l'un à l'autre, hein, du moyen jusqu'à sa conséquence, c'est-à-dire le monde virtuel. Pour prévenir le fait, je l'ai dit, il faut l'identifier. Le monde du virtuel s'oppose au fait et à la fatalité. La transposition est immédiate dans le domaine du vécu, soit le vécu est annulé par le virtuel, soit il est douloureux et refusé avec véhémence et violence. Mais ce qui m'intéresse évidemment en tant que médecin, c'est que la transposition dans le domaine médical est aussi évidente. La maladie aujourd'hui ne doit pas être vécue. Il est anormal de vivre la maladie, elle doit rester dans le domaine du virtuel, c'est ce que pensent évidemment beaucoup d'entre nous, enfin beaucoup d'entre les personnes que l'on voit face à nous, au mieux dans celui du préventif. Le préventif amené comme la quintessence de la médecine, puisque ce qui n'a pas eu lieu serait le sublime de notre intelligence. Cherchons l'erreur. D'abord, il y a des mots nécessaires. Pas au sens rédempteur du terme, je laisse cela à quelques fous, mais au sens du maintien de l'existence qui nécessite une interaction naturelle, parfois douloureuse avec le milieu environnant. Je pourrais prendre pour exemple la stimulation du système immunitaire, mais il y en aurait bien d'autres qui ont valeur d'éducation. Deuxièmement, il y a bien une réalité, il y a une mort certaine. Et celle-ci, le virtuel ne pourra pas la changer. Alors, après avoir parlé du malade, je voudrais parler évidemment de la médecine. Et petit à petit, nous rentrerons dans la médecine de demain. Je commencerai par un extrait des essais de Montaigne, car j'aime beaucoup sa position. De la médecine, je pense qu'elle est le pire ou le meilleur, comme on voudra, car nous n'avons, il parle de lui, Dieu merci, ni le commerce ensemble. Je vais à contresens des autres, car je la méprise. Quand je suis malade, au lieu d'y recourir, je commence à la haïr et à la craindre et réponds à ceux qui me pressent de prendre médecine qu'ils attendent au moins que j'ai retrouvé mes forces et ma santé pour avoir plus de moyens pour en supporter l'effet violent et les risques de ces breuvages. Je laisse faire la nature et présuppose qu'elle soit dotée de dents et de griffes pour se défendre des assauts, pour maintenir mon organisme et éviter la dissolution. Je pense que ce texte devrait être médité par les étudiants en médecine beaucoup plus longuement durant leurs études. Et effectivement, je m'associe beaucoup. Si je n'ai pas besoin d'aller voir un médecin, figurez-vous que surtout je n'y vais pas. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos concitoyens. Alors la médecine, si je parle de la médecine, c'est d'abord, il n'y a pas de médecine sans médecin. Je crois que la poésie et la beauté de la chose, c'est le contact entre deux êtres, le malade et le médecin, parfois entre l'être malade et une communauté de médecins et de soignants. Cet instant-là est essentiel et irremplaçable. Les pouvoirs publics, les administrateurs doivent garder cela en mémoire. Le médecin, c'est celui que le malade ou celui qui pense l'être va voir, va lui confier sa plainte, va lui confier son corps et va lui exposer son monde intérieur. Le médecin va dispenser la médecine. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la médecine? Et ce soir, je ne me poserai pas sur les médecines, D'abord parce que le sujet est beaucoup trop compliqué, et deuxièmement parce que je pense que la médecine c'est un générique, il n'y a pas des médecines, c'est un acte, une intervention extérieure ayant pour but soit d'améliorer les conditions de l'autoréparation que nous portons en nous, soit de contrecarrer les effets délétères des maladies qui aboutissent à une dégradation accélérée et parfois définitive de notre existence. Le contourage de la médecine est donc très difficile. Qui est médecin ? Qui fait de la médecine ? La seule réponse nous est fournie par la société et ses ordres, l'ordre des médecins. Mais combien de nos concitoyens font appel aux rebouteux, aux magnétiseurs, aux porteurs, aux guérisseurs et y croient ? Combien de médecins diplômés pratiquent assez proches... Combien de médecins diplômés ont des pratiques assez proches de ceux que je viens de nommer ? Font-ils de la médecine ? Le chirurgien esthétique qui réduit la graisse sur les fesses fait-il de la médecine ? Je ne sais pas répondre. Intuitivement, je crois que nombre d'entre ces pratiques sont là pour traiter un symptôme, mais sont incapables de soigner la cause, ce qui limite leur champ d'application lorsque la maladie est grave ou mortelle. Ils ne peuvent soigner un cancer, ils ne peuvent soigner la paroi d'une artère, ils ne peuvent remplacer un organe défaillant, etc. Mais je ne me leurre pas non plus. Si traiter le symptôme n'est pas guérir la maladie, traiter la cause n'est pas toujours guérir le malade, qu'on embarque parfois vers une destination néfaste. Pour préparer la médecine de demain, nous les universitaires de la médecine, en nous aidant des autres disciplines du champ de la réflexion, devons en permanence redéfinir ce que sont les maladies en considérant la temporalité de ces définitions. Cet effort garantira l'orientation du politique. Nous devons recycler, les amener dans la cave, certaines maladies et introduire de nouvelles définitions. Identifier et formuler dans le langage. Et ce n'est pas si facile, car il faut pour cela travailler en groupe et avec beaucoup d'intelligence. La médecine de demain ne pourra s'améliorer qu'au prix de ce travail, et pour moi, seule une médecine plus scientifique, je parle là de l'enrichissement de la médecine par les sciences, qu'elles soient fondamentales comme la physique ou la biologie, ou du domaine des sciences humaines et sociales comme la démographie, la sociologie ou la psychologie. Pourquoi les sciences ? Parce que la démarche scientifique, celle des doutes, celle du doute, celle du questionnement, tant qu'elle reste dans ce champ, fait écho à mon aspiration à l'incertitude. Pratiquer la science, ou mieux la démarche scientifique, comme un exercice de l'esprit, un ascétisme. Puisque je parle des sciences, je voudrais rentrer un tout petit peu dans ce domaine-là. Regardons ce que les 30 dernières années nous ont amenés. Nous avons assisté à l'introduction des sciences et des technologies dans la médecine. Et c'est tant mieux. Je ne résiste pas à décrire le chapitre de la mise au point de l'IRM pour montrer comment la physique et l'informatique ont révolutionné et vont encore faire le faire pour de multiples années la médecine. En 1973, Paul Lauterbourg, futur prix Nobel de médecine en 2005, écrit dans Nature un article de 20 lignes que j'ai eu l'occasion de lire et qui est presque surprenant, et y adjoint un dessin à la main expliquant comment l'utilisation du magnétisme moléculaire pourrait permettre de réaliser des images et qu'elles pourraient un jour être utilisées en médecine. Ce petit papier de 20 lignes avec un dessin fait à la main lui vaudra un prix Nobel. Vous imaginez qu'aujourd'hui, Nature demande des articles souvent d'une plus grande complexité. Mais voilà comment on devient prix Nobel, c'est avec un petit article et un dessin fait à la main. Et donc, il ajoute, donc, en 1979, l'ordinateur aidant, il produit la première image, alors je crois que c'est celle d'une fraise, mais je n'en suis pas sûr, et très vite celle d'une souris vivante. En 1982, la première image humaine. En 1985, une IRM est installée en France et pour la première fois, on voit la moelle épinière, ce qu'on ne pouvait pas voir avant, et ses pathologies sans y pénétrer physiquement. Et si on peut voir la moelle épinière, qui est un tout petit organe, évidemment, on peut voir beaucoup, beaucoup plus de choses. Et aujourd'hui, on fait de l'imagerie fonctionnelle grâce à ce type d'appareillage. Nombre de découvertes majeures du domaine du vivant sont indexées à celles de la physique et des technologies qui en découlent. Celles-ci n'enlèvent rien aux découvertes de la biologie, qui nécessitent bien sûr l'intervention de l'intelligence humaine pour poser la question à résoudre, tracer la ligne dans la nuit et chercher la solution. Je pourrais prendre des exemples multiples. La surdité des enfants et les implants cochléaires, le remplacement d'organes, le remplacement tissulaire par des biomatériaux, les stimulations cérébrales, j'ai vu dans la salle un spécialiste, l'imagerie in vivo des cellules et des molécules, la reconstitution de tissus comme le sang, la moelle osseuse, la mise au point de vaccins efficaces, la biologie du sang quasiment en direct permettant au réanimateur de faire son travail d'urgence, le médicament et la théranostique, si y en a que ça intéresse, je leur expliquerai ce que c'est, l'hygiène décuplée. Je n'oublierai pas non plus les contraintes que la médecine s'impose pour la qualité de son travail et l'effort récompensé des administrateurs dans ce domaine. Je sais que je vais susciter des réactions. Le résultat, exit les grandes épidémies. Beaucoup des maladies transmissibles, exit au quotidien certaines douleurs, exit certains cancers, certains chez l'enfant, par exemple, exit les artères bouchées, etc. Je pourrais en rajouter dans tous les domaines. Sommes-nous devenus pour autant moins humains? J'ai déjà, dans l'introduction, parlé de ça. La médecine est-elle moins humaniste? Alors, bien sûr, le médecin, à l'image de la société, aujourd'hui, est un homme pressé. Bien sûr, il y a un manque de médecins, d'infirmières et beaucoup d'autres professions médicales et paramédicales. Bien sûr, l'accueil du malade doit être amélioré et doit toujours rester une occupation première. Mais lorsque je me retourne dans les locaux rénovés, des chambres seules avec des salles de bain, que je vois l'intelligence déployée par les petites communautés d'humains auprès du malade, mes confrères, et pour le malade, les administrateurs, je vois le progrès, je n'ai pas honte d'utiliser ce mot, je vois le progrès accompli en 30 ans. Posséder les techniques, les utiliser le plus correctement possible, de la façon la plus appropriée, est une forme d'humanisme. J'ai dit en introduction que l'IRM avait remplacé la cisternographie, mais on pourrait prendre bien d'autres exemples. L'artériographie remplacée par le scanner, la coloscopie au tube qui sera très prochainement remplacée par la coloscopie virtuelle qui permet à 93% des patients d'éviter cette coloscopie optique. Et certes, les mots sont importants pour se comprendre. Et je vous réponds, monsieur, à cet article que vous aviez publié en octobre 2007. Oui, les mots sont importants pour définir les faits, pour décrire les maladies, mais ils ne servent pas seuls à traiter. Il faut des objets qui sont des appareils et leurs produits qui sont des médicaments ou autres. Que parmi ces objets, certains fassent des images de l'intérieur du corps sans s'y introduire ou enregistrent des activités sans nuire est génial. Que les médicaments éloignent la douleur, corrigent les métabolismes défaillants, contrôlent la température, détruisent les cellules anormales, c'est génial, même si ce n'est pas toujours suffisant. Est-ce terminé? Est-ce qu'on a vu la fin de l'introduction des sciences dans la médecine ou des progrès? Non, pas du tout. Les progrès des sciences vont encore inonder la médecine de demain. Dans l'imagerie, celui des lasers et de l'IRM. Dans le domaine de la génétique, la perspective de réparer le génome, et j'en passe. Les méthodes biologiques descendent loin dans l'identification et la discrimination des molécules, et tout un champ de la médecine apparaît pour de la cellule refaire un tissu, voire un organe. Le fonctionnement de notre cerveau est à peine au début de nos connaissances. Un article récent montre que des stimulations électriques de la région hypothalamique chez l'homme renforcent les capacités de mémoire. Vous imaginez, et éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Je n'oublierai pas non plus les progrès majeurs apportés par les sciences sociales et humaines dans la compréhension de l'individu dans son environnement. L'écologie, la démographie et la bionomie, l'économie du vivant, doivent guider le médecin et la politique dans sa démarche. Alors évidemment, je ne suis pas naïf et je peux entrevoir les choses trappes et les dérives monstrueuses des sciences. La bombe atomique est dans l'inconscient collectif et il ne m'a pas oublié. Récemment, dans un article de la revue Nature, des chercheurs montraient que des souris aveugles, greffées de cellules embryonnaires, pouvaient percevoir à nouveau la lumière. Dans le même journal, un éditeur soulignait l'avancée spectaculaire et l'espoir généré pour les non-voyants, mais il mettait en garde sur le risque évolutif de ces cellules souches, notamment le risque de cancer. L'article se terminait par cette phrase en forme de limite. Si vous greffez 30 000 cellules souches à un humain, la FDA, qui est l'organisme de régulation aux États-Unis, vous demandera ce que sont devenues chacune des 30 000 cellules. L'intelligence humaine, c'est aussi de savoir mettre les freins, poser les interdits pour ne pas nuire au monde intérieur du vivant. Bien sûr, il y aura des bêtises. Bien sûr que nous tâtonnerons. Mais notre passé médical dans l'obscurantisme n'a-t-il pas généré ces monstruosités, ces malades défigurés et ces contaminations odieuses? Ce sont les organisations de la réflexion et l'université doit rester au centre de ce processus car elle doit générer les micro-architectures de l'intelligence sans être contaminée par le pouvoir marchand. Ce sont les organisations de la réflexion qui permettront à l'homme de choisir ce qui lui est approprié en favorisant son environnement. De quoi mourra-t-on? J'ai posé la question tout à l'heure. Finalement, peu importe si la vie mérite d'être vécue. La crainte des sciences est au cœur du débat mondial. Le développement de la connaissance par la science renforce la puissance des scientifiques et génère des frayeurs et des fantasmes qui augmentent l'espace des croyances et des nouveaux obscurantismes. Je citerai l'intelligence design qui fait fureur aux États-Unis. Les deux mouvements, sciences et croyances, sont synergiques mais opposés. Là où les systèmes régulateurs devraient être l'éthique et l'argent, l'obscurantisme prend le pas. L'éthique est le résultat d'une réflexion complexe. Elle doit être régie par le principe du doute, le principe de précaution qui nous ennuie souvent, nous médecins en est l'expression. Par opposition, l'obscurantisme oublie le doute dans sa démarche et au contraire, très facilement, exploite la crédulité de l'ignorant et balaye d'un revers de main le progrès. Je suis souvent surpris par les propos anti-scientifiques des écologistes. La véritable écologie doit naître de la science et doit devenir une discipline scientifique. Elle pourrait constituer la science de la conscience humaine dans ses relations au monde environnant. Je pense qu'elle est en train largement d'ailleurs de le devenir. Nous verrons un peu plus loin, nous reparlerons de l'université, mais j'aimerais parler maintenant, dans ce troisième volet, après le malade et la médecine, de l'organisation de la santé. Je l'ai dit tout à l'heure, la médecine répond à un individu et à sa vie, dans son unicité, son caractère unique. Nous, médecins, ne prenons pas en charge deux malades, un groupe de malades, une cohorte, ni même une population. Nous avons face à nous un individu. Mais il n'y a pas de médecine sans organisation de la santé, dont le but est d'assouvir le désir du groupe ou de la population de survivre et de moins souffrir. J'aime le film Le pianiste de Polanski, car il montre un individu qui fait le pari de survivre en refusant l'option collective. En situation extrême, je pense que ce pari peut être payant. Il l'est beaucoup moins en situation prolongée. Pourquoi faire du collectif? Parce que la démarche individuelle n'est payante qu'à court terme, et on verra les dérives demain des financements individuels de la médecine. Parce qu'à plusieurs, on fait plus que seul, parce que la répartition des tâches est plus efficace. Dans ce contexte, autour de la médecine et de l'accès aux soins, se constitue déjà et se constituera plus encore demain un ciment social fort. Les sociétés s'évalueront et vaudront par leur médecine et l'organisation de la santé au sens plus large. Je pense que la France est encore un grand pays qui a une certaine avance. Si l'on regarde en effet les sociétés dans lesquelles la longévité est la plus longue, ce sont celles où le système collectif de santé est le plus élaboré, le plus équitable, la médecine bien enseignée, le Japon et la France en sont des exemples. Les centenaires sont-ils tous des milliardaires? Non, au contraire, et c'est là que réside le succès du collectif. Alors, vous allez me dire que je suis plein de naïveté, mais je n'ai pas oublié de vous dire que trois défis majeurs intéressent pourtant la médecine de demain et vont remettre en question cette description idyllique. L'allongement de la durée de vie dans tous les pays, j'en ai déjà parlé avec le vieillissement de l'individu, je vais en reparler un tout petit peu par rapport à l'incidence sociale, la surpopulation dans les pays hors de l'Occident et le coût de plus en plus élevé des techniques et des thérapeutiques. Alors les conséquences sociales du vieillissement, en 2008, il faut savoir que 18% de la population a plus de 65 ans et 8% a plus de 80 ans. Mais en 2040, 40% de la population aura plus de 65 ans, 28% en aura plus de 80 ans, c'est-à-dire plus d'une personne sur quatre aura plus de 80 ans en 2040, et deux, si on arrive à 2040. Mais comme je suis optimiste, on verra ça, 2 millions de personnes seront atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le vieillissement sera vécu comme un droit, et les sociétés évoluées, s'il en reste, inscriront comme un devoir de prendre les individus de leur naissance jusqu'à un âge avancé, mais à quel coût social et humain. Alors le chapitre sur la surpopulation, c'est un domaine qui véritablement m'anime. J'étais dans la voiture tout à l'heure pour essayer de venir et j'entendais que tous les jours, il y a 200 000 personnes en plus sur la Terre. Alors la médecine utilise les facultés humaines de l'intelligence et du transport du savoir pour adapter l'individu à sa situation et en favoriser la survie sur les autres espèces. En reculant la régulation naturelle, la médecine a permis à l'humanité de passer de 50 millions d'individus en 1800 à plus de 5 milliards aujourd'hui. Il y avait 15 000, c'est des chiffres faciles à se souvenir, il y avait 15 000 individus il y a 15 000 ans, vous voyez, en Europe. Quel rêve! L'explosion démographique est pour moi le facteur majeur des problèmes actuels et ceux de demain, surtout dans ce monde entièrement commercialisé qui est le nôtre. 19 millions de petits Chinois, il y avait un chanteur qui nous disait qu'il fallait faire attention, 19 millions de petits Chinois chaque année sont les consommateurs de demain de toutes les ressources. Mais pas seulement la Chine, il y a l'Inde, le Brésil, l'Égypte, l'Afrique, le nombre de Palestiniens a triplé en 20 ans, le baril de pétrole à 250 euros est inexorable d'après les spécialistes d'ici 10 ans, et la nourriture sera achetée par certains pays à des prix inabordables pour d'autres. Concentrations humaines des grandes cités, surpopulation urbaine, surpopulation terrestre, une partie de notre monde, pas seulement en Occident, est passée d'une situation de manque à une situation de pléthore. Il y aura certainement des famines, mais ailleurs il y aura de la pléthore. C'est ce que l'homme recherche, être trop chauffé, trop éclairé, trop nourri. Une partie de l'éducation des enfants consiste à leur apprendre des stratégies d'évitement et nous devons lutter contre l'hypersollicitation commerciale. Et tout ça va se généraliser à l'échelle des milliards d'individus de la planète. Du désir, nous passerons bientôt à l'évitement, car l'homme a besoin de temps et aussi d'espace. La régulation de la médecine sera donc un facteur considérable demain. Et je souhaite faire un petit passage de fiction, si vous me le permettez, puisque c'est la médecine demain, à la méthode de Jacques Attali, dont j'ai eu l'occasion de lire un livre récemment. Alors vous allez voir, je vous fais du Jacques Attali, c'est à ma méthode. Alors, faute de pouvoir assumer financièrement sans contrôle et sans discrimination, ce qui se passe aujourd'hui, il y a très peu de contrôle et de discrimination des dépenses de santé, ce devoir de vie et de santé des populations, les États le délègueront à des compagnies privées d'assurance et de médecine, les deux mots associés ne sont pas innocents, et elles leur délogueront le soin d'amener les individus d'une berge à l'autre du temps, tels des charrons sur le Styx. Elles ressembleront à des compagnies d'aviation qui débitent aujourd'hui les passagers comme des produits normalisés. Les médecins et autres personnels de santé seront les pilotes et les hôtesses, j'ai noté que la médecine se féminise, de ces navires de vol de la santé. Selon leurs revenus, les individus voleront ou navigueront dans des classes différentes. Les compagnies amèneront donc les individus au plus loin, les débarquant dans des ports en cas d'incident ou d'accident, assurant aussi bien les frais inhérents aux soins que le préjudice de ne pas pouvoir les amener plus loin, les erreurs médicales étant incluses dans le forfait, ce qui diminuera, et ce n'est pas innocent, et fera disparaître la participation de l'État même dans le droit, les sanctions étant internes aux compagnies. En contrepartie, les individus seront devenus des produits normalisés pour leur santé, car pour faire le voyage, les compagnies exigeront non seulement de l'argent, mais aussi que les individus se conforment à toute une série de normes de santé, et notamment préventives. Se soumettre préalablement au séquençage de son génome. Ne pas trop manger. Manger ceci ou cela, mais pas de graisse et de sucre. Ne pas trop boire d'alcool, ne pas fumer, ne pas se droguer, ne pas tout. Qui passe dans la rue sera contrôlé, surveillé et les enfreintes seront surpayées, surtaxées comme les frais de voyage aujourd'hui. Mais aussi se laver, faire de l'exercice, se brosser les dents, ne pas passer trop d'heures derrière un ordinateur, tout cela sera surveillé. L'avenir, c'est la prévention. Le problème est apparu avec la longévité. Pourquoi on ne fume plus ou moins? Pourquoi arrêter de le faire? C'est une échelle de risque sur un pari, celui de l'avenir. Les assurances seront les maîtres de demain de la médecine, se développeront, et ils existent déjà, les systèmes de contrôle et de surveillance miniaturisés jusqu'à devenir permanents. Les études épidémiologiques, éthiologiques et pronostiques seront hautement financées pour améliorer la connaissance des facteurs de risque des populations. J'ai bien dit des populations. On pourra probablement changer de compagnie, s'inscrire partout dans le monde, vendre sa santé à la plus offrante tout en acceptant ses contraintes. La place de l'État, c'est-à-dire une collectivité de personnes au sein d'un territoire dans la médecine de demain, sera de plus en plus réduite. L'État, si cela a encore un sens à cette époque, se désinvestit d'un système où la réciprocité des responsabilités sera devenue ingérable. On fait des procès à l'État pour des raisons de médecine. Mieux vaut que l'État, alors, pour lui, se désinvestisse. À un droit automatique qui existe aujourd'hui dans un pays comme la France, se substituera une démarche individuelle, volontaire, d'adhésion à une compagnie, souvent internationale, ne reconnaissant aucun droit d'un État particulier. Quel homme politique ne serait pas tenté de se débarrasser de la santé? Quel autre se servira de ce prétexte pour faire campagne? Et vous aurez noté d'ailleurs pour l'instant que ce n'est jamais un sujet majeur dans les campagnes électorales en France. Pourquoi? Peut-être parce que la France voudra justement un jour se débarrasser de sa médecine. Je vous affole pour que vous réagissiez. Qui connaît, à part le directeur d'AXA, bien sûr, les directeurs des AGF, de la MAIF ou de la MNH? Personne, alors que nous connaissons le politique. La médecine sera alors un luxe que pourront se payer certains, avec son corollaire, elle deviendra inaccessible à ceux qui ne peuvent assumer ce coût. Ceux qui adhèrent à une vision rationnelle et trop individuelle de la société traitent leurs congénères avec froideur, ils digèrent leur misère. Alors un tel scénario est-il probable? Eh bien ce scénario, malheureusement, il est probable et je pense que nous devons, nous, faire tout pour qu'il ne se réalise pas. La France, il faut le savoir, consacre 10% du PIB aux dépenses de santé contre par exemple 8,5% en Angleterre. L'assurance maladie française rembourse 72% des dépenses contre 80% en moyenne dans les autres pays d'Europe. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les mutuelles privées ont donc un important rôle dans notre pays. Je n'y suis pas du tout opposé, il faut que ce rôle soit complémentaire, mais il faut que la décision reste aux politiques et aux collectifs. L'assurance maladie, et ce sera là aussi un élément de pression important, a subi un déficit de 6 milliards d'euros en 2006, une tendance à l'amélioration. On a connu des déficits de 13 milliards d'euros certaines années, il sera de 4 milliards d'euros en 2007. Et le poids cumulé de ces déficits sur l'assurance maladie depuis 20 ans pèse considérablement sur la dette publique et l'endettement de la France. Alors, quelles mesures prendre ? Amener plus encore la santé et la médecine dans le débat public et en faire un vecteur majeur de politique, et je réponds là, monsieur Caillé, à votre premier propos de tout à l'heure. Donc il faut que la santé et la médecine soient un élément de la politique. Mieux éduquer les populations pour changer les comportements des usagers, les éduquer sur la santé individuelle et sur le système collectif de soins en expliquant bien son enjeu. Le but est de sensibiliser au gaspillage grotesque de nos moyens pour réserver nos efforts de financement à une médecine indispensable et en amont à la recherche. Sanctionner, bien sûr, les abus. Redéfinir le champ des maladies et des malades qui nécessitent le soutien collectif et donner à tous ceux-là, jeunes et vieux, pauvres et riches, la chance d'être pris en charge par la collectivité. Enfin, dernière mesure que je voudrais annoncer, c'est organiser des petites communautés médico-scientifiques. Je vais y revenir. Je pense que l'avenir sera quand même le maintien en bonne santé opposé à la survenue de la maladie. Et je crois que c'est aussi un progrès. Nous n'échapperons pas pour autant aux contrats de santé. On passera des contrats de santé dans le but de se maintenir en bonne santé. Il faudra pour cela développer la bionomie, je l'ai cité, soit autonome par la connaissance individuelle, soit par des conseillers de santé qui sont probablement des médecins de demain. Ce qui m'amène à imaginer que l'avenir sera une affaire de spécialistes, spécialistes de la santé, ayant pour but de maintenir en bonne santé des spécialistes du diagnostic des maladies et des spécialistes des thérapeutiques. Ceci a une conséquence évidente dans la formation des médecins. Nous n'échapperons pas non plus à la société mondiale. Il est, à mon avis, tout à fait illusoire d'essayer de penser que l'organisation de la santé restera française. C'est une illusion complète. L'Europe est en construction et notre échéance, elle est notre échéance la plus proche et la plus probable, et c'est tant mieux. Edgar Morin résume l'internationalisation par l'horizon, c'est être ensemble. Le capitalisme a vécu. On assiste à l'internationalisation de la production, ce qui veut dire que les systèmes de santé seront une vraie bataille de l'avenir, que notre modèle hippocratique, celui de l'accès à tous aux soins, pour les pathologies qui le nécessitent, et je rajouterai toujours ça, pour les pathologies qui le nécessitent, devra être défendu ardemment par nos politiciens français et européens. J'ai parlé des communautés médicales et médico-scientifiques, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je crois qu'il faut organiser et respecter les foyers d'intelligence, les niches créatrices qui sont souvent le fruit d'une petite communauté d'hommes et de femmes. Les médecins et autres soignants doivent s'inscrire dans ces perspectives. Ce que le politique doit faire, c'est donner les moyens à ces micro-architectures humaines de se former, de se pérenniser au moins pour un temps. L'homme préhistorique en horde, en bande, en tribu, en micro-architecture humaine d'intelligence est mon modèle. Les grandes réussites du XXe siècle et du XXIe sont le fruit de petits groupes d'humains qui mettent en commun leur intelligence et leur complémentarité. Je citerai les Beatles, Microsoft à son origine, etc. Alors je vais aussi là choquer certains, mais je pense que les conférences de consensus, les références médicales opposables d'autrefois, les recommandations nationales de l'HAS ou des sociétés scientifiques devraient s'inscrire dans l'idée de former autour d'eux des foyers d'intelligence pour justement créer cette définition de la maladie. Et je pense que dans certains cas, ils y réussissent bien. Les consultations pluridisciplinaires, que personnellement je trouve aussi en font partie, et dans le système hospitalier, le responsable d'un pôle de 500 personnes que je suis a toujours voulu conserver les services hospitaliers dans cet objectif de garder ces micro-architectures humaines. Le jour où on y touchera, l'effondrement du système médico-scientifique et éducatif sera signé. Enfin, puisque nous parlons du financement, et pour en finir avec le financement de la médecine de demain, j'ai du mal à ne pas parler du financement du médecin. Je pense qu'il faut que le médecin partage, tout en évitant un enrichissement qui se fait sur le dos de la collectivité. J'aimerais rappeler à certains de mes confrères que l'assurance maladie n'est pas une banque où l'on vient retirer, parfois sans beaucoup d'efforts, des dividendes. Il faut que le médecin partage avec l'enseignant et le scientifique, aujourd'hui beaucoup trop mal payé. Aujourd'hui, l'échelle des salaires dans le domaine médical et dans d'autres est inversée en France. Ainsi, je propose qu'une partie de l'assurance maladie et des assurances privées finance en amont la recherche scientifique et le scientifique, l'université et l'enseignant, comme elle le fait souvent parfois trop bien pour le médecin. Mon troisième chapitre sera sur l'éducation, c'est-à-dire sur le monde de l'information, de la connaissance et de l'université. Le monde de demain, puisqu'on m'a demandé de parler de demain, donc j'en parle. J'en profite. Le monde de demain sera probablement celui du cerveau. Et j'aimerais vous rappeler cette phrase de Woody Allen, « My brain is my second favorite organ ». Notre modèle industriel et commercial actuellement se développe partout. L'internationalisation du savoir et de la connaissance suit le même chemin. Les différences culturelles et ethniques se gomment comme des soubresauts, certes, mais inexorablement. L'anglais est déjà la langue universelle. Les délocalisations ne sont que l'internationalisation de la production et servent des pays à acquérir le confort qui est le nôtre aujourd'hui et la connaissance universelle. Philippe Herzog dit « Dans la société mondiale, savoirs et technologies se partagent alors qu'autrefois, elles permettaient de se combattre. » Le monde de la connaissance est sur la toile. Mais Jean Baudrillard, que j'aimais bien lire, il est décédé il y a un an, a écrit ce très beau texte « Dans le monde des écrans, c'est celui dans lequel nous vivons, le corps devient un membre fantôme. C'est le résultat de ce processus qui fait tout converger aujourd'hui sur le réseau, le nexus, la connexion universelle. Tout l'humain rentre dans l'ordre des réseaux, y compris le cerveau, assimilé dès lors à un ordinateur. » Et je reviens à Chuang Tzu par une mise en garde en écho. Si nous câblons notre monde intérieur, si nous devenons homogènes en profondeur, perdant notre autonomie, nous disparaîtrons. Cependant, mon optimisme refait surface. Dans le monde du cerveau, le formatage, j'emploie volontairement l'analogie informatique, l'éducation sera de plus en plus déterminante. Dans les sociétés pré-industrielles, aller à l'école jusqu'à 10 ans est presque un gaspillage. Et c'est monstrueux. Dans le monde industriel, la formation professionnelle nécessite de plus en plus de technicité et d'ingéniosité. Alors que la surface de nos corps sera identique par le mélange des gènes et des cultures, que nous utiliserons le même langage, dans le monde du cerveau, l'éducation aura alors un rôle majeur, celui de nous apporter ce monde intérieur si nécessaire à notre maintien, celui de faire de nous des êtres heureux, différents et complémentaires. L'éducation est aujourd'hui un objectif d'une vie entière, peut-être d'ailleurs un des moyens de lutter contre la maladie d'Alzheimer, ce que les anglo-saxons, qui sont souvent en avance d'un coup parce qu'ils possèdent le langage universel, appellent le 3L, le lifelong learning. Je voudrais vous rappeler ce petit mot d'Umberto Eco, l'aventure c'est la connaissance, et puis cette expression d'Aragon, la connaissance c'est l'aventure dans la nuit même. Alors bien sûr, si je ne me trompe pas, l'école, le lycée, l'université, dans la connaissance et y compris pour la médecine de demain, car qu'en avons-nous de plus précieux que notre santé, auront un rôle majeur. Il faut transmettre plutôt les connaissances acquises des sciences sur la physiologie de la vie, de sa diversité et de son respect. Il faut développer chez les enfants plutôt l'esprit critique, montrer sur quoi repose le cheminement scientifique. Il faut que les professeurs de l'enseignement secondaire se maintiennent au fait des avancées des connaissances, qu'ils transmettent une approche positive, critique et objective des sciences. Le professeur de l'école et des lycées doit revenir à l'université le plus souvent possible. La durée moyenne des connaissances n'excède pas 5 ans aujourd'hui. De la même façon, le professionnel et le particulier doivent revenir au monde de l'éducation dans le 3L dont je parlais. Alors l'université dans tout ça. L'université par ce creuset de la recherche et de l'enseignement, par la rencontre des disciplines, par un accès plus ouvert au monde des enseignants du secondaire et du primaire et au monde professionnel, est le lieu privilégié d'émergence et de transmission de la connaissance. Voilà les deux objectifs. Elle doit transformer l'information en savoir, elle doit apprendre à apprendre, car l'accès aux connaissances est maintenant universel. Elle doit favoriser le dialogue interdisciplinaire, elle doit aider à la création de ces micro-architectures humaines de l'intelligence dont je parlais tout à l'heure. Regardons comment aujourd'hui les recherches dans le domaine médical les plus performantes sont menées, en associant des physiciens avec des biologistes, des biochimistes, évoluant dans un contexte intellectuel diversifié, historique, social et philosophique. Où ailleurs qu'à l'université peut-on rencontrer un tel environnement ? Heinz Wissmann dit « Dans la société de la concurrence, il faut un milieu privilégié de la convergence et du dialogue des disciplines, un lieu où il n'y a pas l'objectif de chercher à détruire l'adversaire. » Et il le pense que ce lieu est l'université. Et il dit que les controverses entre les disciplines sont utiles pour sortir des antagonismes. Donc le modèle renaissant de l'université est déjà celui de l'internationalisation du savoir, celui de la diversité du partage des connaissances, celui de la mobilité entre les universités. Que fait le MIT aujourd'hui? Il propose de mettre tous ses cours en ligne sur la toile, partage des connaissances. Il demande à tous ses doctorants de faire une mobilité vers une autre université ou un autre pays. La France doit impérativement sortir de ses craintes et de son obscurantisme concernant l'internationalisation des richesses, des connaissances et des techniques. Seuls, nous prendrons un retard considérable dans ces trois domaines. Le classement de la France dans le système de Shanghai nous apprend que nous sommes en 12e position des pays avec devant nous, alors je pourrais les citer, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Suède, etc. Dans le domaine de la médecine, c'est l'Université Paris-Descartes, Paris 5, qui est la seule université parmi les 100 premiers établissements du classement consacré à la médecine et à la pharmacie. Donc vous voyez que notre position n'est pas si enviable que ça dans le domaine de l'université. Et donc il faut s'améliorer. Elle se situe, cette université Paris-Descartes, entre la 76e et la 107e position. Et je vous rappellerai que le système de classement de Shanghai se fait à partir de 4 critères. Le nombre d'obtentions de prix Nobel, et la France n'en a pas beaucoup, le nombre de chercheurs de haut niveau, le nombre d'articles parus dans Nature et Science et dans l'index des citations, et les performances universitaires de chaque établissement. Alors l'université de la médecine demain. Évidemment, je ne pouvais pas, vers la fin de cette conférence, ne me soustraire à ce chapitre qui évidemment m'intéresse beaucoup. L'enseignement de la médecine n'a rien de particulier à celui décrit plus haut. Cet enseignement doit rester dans le domaine universitaire et ne surtout ne pas devenir une école professionnelle. Il faut d'abord apprendre à apprendre, je l'ai dit, et faire de la propédeutique. Les sources d'information sont trop nombreuses et si l'étudiant ne ressent plus le besoin d'assister à des cours magistraux, c'est qu'il faut inventer un autre enseignement. Il faut aider l'étudiant à se poser des questions, poser des contre-hypothèses et le mettre sur la voie de la manière d'y répondre. Il faut enseigner la diversité des connaissances dans l'université médicale, diversité qui viendra des sciences fondamentales et des sciences humaines et sociales et la mondialisation du savoir qui passe immanquablement par la maîtrise de la langue anglaise. Il faudra, dans la médecine de demain, intégrer toutes ces dimensions, même s'il faut aussi enseigner la médecine hippocratique et humaniste face aux malades. Le médecin doit acquérir impérativement la démarche du doute et de la remise en question du savoir. Les étudiants qui sont là savent à quel point j'aime enseigner la lecture critique d'articles. Je ne rentrerai pas ce soir dans la critique de notre enseignement aujourd'hui qui, absurdité suprême, transforme parmi les esprits les plus brillants sortant des lycées en prescripteurs aveugles d'examens complémentaires et de médicaments et en assistants sociaux. L'examen classant national à la sortie des études et les perspectives lucratives de la profession n'y sont pas pour rien. Les étudiants doivent avoir la possibilité de développer leurs spécificités, je parle des étudiants en médecine, la recherche, l'enseignement par le tutorat, l'acquisition de connaissances extra-médicales dans les domaines scientifiques. L'étudiant, le jeune médecin, comme Zénon dans l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, doit aussi pouvoir s'enrichir par la mobilité vers d'autres universités. Enfin, le médecin doit revenir au sein de l'université pour continuer tout au long de sa vie sa formation. Pourquoi l'université? Ben, vous l'aurez compris, c'est là qu'il trouvera la diversité féconde des connaissances. L'université doit enseigner aux futurs médecins le système de santé, la politique de santé. Le médecin doit être un partenaire dans l'éducation des populations, dans leur comportement face à la médecine et au système de santé. Chaque médecin doit être un pédagogue de ses patients. Il faut que l'université et les stages hospitaliers soient la fondamentaux succès de notre intégration hospitalo universitaire. Il faut que l'université apprenne à l'étudiant à s'exprimer. Je prendrai l'exemple des systèmes d'auto-réparation au sein du vivant, apprendre aux patients que l'immense majorité des symptômes relèvent d'une pathologie qui n'est pas grave et parfois fort coûteuse pour le système de soins et que parfois ces pathologies sont utiles pour l'organisme. Nous avons les moyens internes de ces réparations, nous avons les moyens simples d'éviter le recours à une médecine coûteuse. C'est ça qu'il faut aussi enseigner aux étudiants. Il faut aussi parler de l'étudiant. J'ai parlé de la médecine, j'ai parlé des médecins, mais je voudrais de l'université, je voudrais parler des étudiants. En médecine, c'est un jeune être humain entre 19 et 32 ans qui veut étudier la médecine. Il est lui-même confronté à l'évolution de la société et nous en donne un aperçu qui peut parfois être déroutant. Perte de motivation pour les enseignements théoriques, diminution de la concentration, occupation de l'esprit, je l'ai dit tout à l'heure, par des objets divertissants, accès à des sources d'informations multiples, disparates, souvent non contrôlées. Mes internes, il y en a quelques-uns ici, quand on dit le nom d'une maladie, ils vont tout de suite sur Internet et récupèrent en 10 lignes une information qui est hautement peu contrôlée. Donc, relations humaines ou le savoir-vivre, je décris les relations humaines de nos collègues étudiants, dont le savoir-vivre, selon la baronne Staff, a fait feu il y a bien longtemps, jugement rapide du professeur, incapacité à s'exprimer dans le langage commun, etc. Si l'on appose l'éthique comme obligatoire dans le domaine des sciences, il y a à enseigner l'éthique médicale, la tenue et la retenue face aux malades. Alors, pour quasiment terminer, je voudrais passer à un chapitre qui m'est très cher, c'est de l'information à la formation. Il me faut évoquer un point particulièrement sensible, mais indétachable du mode de la transmission de la connaissance, qui est celui de l'information. Le développement des sciences est permis par le développement de la circulation de l'information. Le système s'auto-reproduit sous nos yeux rivés sur des écrans et l'on assiste aujourd'hui à l'explosion des techniques de communication, d'où les moyens financiers considérables dépensés par ces sciences des techniques de communication et leur corollaire, la pression à la consommation, à l'utilisation et la publicité. Je souhaite qu'on ne se méprenne pas. L'information ne véhicule pas de connaissances. L'acquisition de la connaissance ne se fait qu'en subissant, le mot est choisi, un enseignement. L'information nous donne une approche totalement disparate de la connaissance et nous maintient dans l'ignorance, amenant à des jugements sommaires. Je suis amusé très fréquemment par le jugement de la population et des journalistes sur des cas de justice et du verdict totalement opposé des juges. Ce fut le cas de l'affaire Colonna, il n'y a pas très longtemps, ou d'autres affaires criminelles. Le juge a la connaissance du dossier, le public, par les moyens de communication, en a l'information. Dans le domaine médical, nous pourrions avoir pléthore d'exemples et je suppose qu'il est presque déjà tard ce soir et qu'il va falloir que je m'arrête. Par exemple, quand je lis elle et que je lis leurs conseils dans les régimes alimentaires, le Creutzfeldt-Jakob et la vache folle où on nous prédisait des millions de morts, la grippe aviaire qui n'est pas encore arrivée, Monsanto qui s'enrichit sur le dos de toute la planète, les OGM dont on est sûr que tout est mauvais, l'euthanasie dont on veut avoir une position très ferme et politique. Chacun réclame le droit de se faire une idée. Et savez-vous que 90% des gens interrogés pensent que le journal télévisé de 20h dit la vérité? Souvenez-vous de mes précautions orales au début sur la vérité. Quelles projections de l'obscurantisme sont véhiculées par les jugements trop faciles et par les amalgames? Nous nous comportons, nous les citoyens du droit à tout, comme des aveugles qui touchent une partie de l'éléphant et qui décrivent l'animal entier. J'en arrive donc à la conclusion. Pour vous dire que tout nous ramène à la question sublime de notre existence, mais surtout, ne nous prenons pas trop au sérieux car il n'y aura pas de survivants. Quand je pense à des intellectuels, à ces Parisiens qui disent que la vie ne vaut pas d'être vécue, j'ai honte je l'ai entendu il n'y a pas longtemps à la radio, et je l'ai lu. J'ai honte pour l'homme préhistorique, vous savez que c'est mon modèle, pour ce que fut sa bataille pour survivre. J'ai honte de nos sophistications inutiles, de nos intellos du désespoir, des pisses froides de l'humanité. Bien sûr qu'il est licite de s'interroger sur la complexité de notre monde, ce que j'ai fait en voiture en croisant des gens bizarres sur la route, et sur nos comportements parfois détestables. Mais la meilleure preuve qu'il existe une intelligence extraterrestre, dit Bill Watterson, c'est que personne n'a essayé de nous contacter. La leçon tirée des morts, oui, nous avons tiré et nous tirons des leçons des morts. Des souffrances réduites par les médicaments ou les mots choisis, des vies trop jeunes pour mourir qui sont épargnées, des épidémies qui sont vaincues. Faut-il faire le procès de Dieu ou bien nous a-t-il aidés? Je vous rappelle qu'à Nara se situe la statue d'un homme qui, affrontant les dieux du bouddhisme, a gagné le procès. Et Tiamble cite Haïm et dit « Le cycle d'espérance est mué en courbe descendante qui se rapproche de l'asymptote finale et définitive, le désert. » Mais il rajoute que c'est dommage dans une époque où les connaissances du monde sont si passionnantes. Je crois qu'on devrait se dire qu'au regard de l'univers, on aura vécu une aventure incroyable, extraordinaire, si courte, si douloureuse et si angoissante soit-elle. Plus d'efforts et plus de simplicité demeurer d'une paisible incertitude. Alors pour répondre à M. Caillé et son cycle de conférences pour prophètes et autres illusionnistes, je voudrais donner ce mot de Yukio Monogatari, vivre seulement pour l'instant, contempler la lune, la neige, les cerisiers en fleurs et les feuilles d'automne, se laisser porter par le courant de la vie comme la gourde flotte au fil de l'eau. Et comme il y a un peu trop de présent dans ce mot, je rajouterai un petit poème de Constantin Cavafy, et qui sera mon dernier mot. Quand tu prendras le chemin vers Ithaque, quand tu naîtras, souhaite que dure le voyage, qu'il soit plein d'aventures et d'enseignements. Je vous remercie.